VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, au micro Camille Grosdidier, Anna Butson. Au sommaire, en ce mercredi 11 février 2015,
les Nations Unies suspendent leur soutien à l'offensive contre les FDLR dans l'est de la République démocratique du Congo.
C'est une décision très surprenante, d'autant plus qu'elle implique que les Nations Unies, après avoir, en 1994, forcé le régime du défunt président Mobutu à recevoir ces gens, s'exonère de la responsabilité de gérer la solution de ce problème.
Vous pourrez entendre la réaction du ministre congolais de l'Information, Lambert Mende.
Il est urgent d'accélérer le rythme de l'investissement public et privé dans le secteur de l'électricité en Afrique.
Selon les experts, l'Afrique subsaharienne a d'énormes ressources inexploitées de gaz, de pétrole, de charbon, d'énergie géothermique, solaire, hydraulique et éolienne. Pourtant, la Banque mondiale dit qu'un Africain sur trois vit sans électricité.
Jean-Roger Bion aura tous les détails.
Mission accomplie, les militaires américains déployés en Afrique de l'Ouest pour lutter contre Ebola vont quitter la région.
Et le nombre de combattants étrangers se rendant en Syrie et en Irak pour rejoindre les groupes extrémistes continue d'augmenter. Mais tout d'abord, le journal. Les Nations Unies suspendent leur soutien à l'offensive contre les FDLR dans l'est de la République démocratique du Congo. Elles dénoncent le maintien de deux officiers impliqués dans de graves violations des droits humains au sein du commandement de l'offensive de l'armée congolaise contre les rebelles hutus rwandais, a déclaré le porte-parole des Nations Unies à la correspondante de La Voix de l'Amérique au siège de l'ONU à New York.
En réaction, le gouvernement de la RDC dit attendre une information documentée des crimes reprochés aux deux officiers. Eddie Sango a joint le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende.
C'est une décision très surprenante, d'autant plus qu'elle implique que les Nations Unies, après avoir, en 1994, forcé le régime du défunt président Mobutu à recevoir ces gens, s'exonère de la responsabilité de gérer la solution de ce problème et laisse la gestion entièrement entre les mains de la République démocratique du Congo. C'est quelque chose de totalement inacceptable pour nous. En deuxième lieu, nous n'avons aucune information documentée sur les crimes qui seraient reprochés à ces deux officiers que nous avons souverainement désignés à la tête des unités qui sont appelées à faire le travail de désarmement forcé des FDLR dans la province du Kivu. Nous apprenons que les Nations Unies ont l'habitude d'établir des fichiers qui sont estimés aux Nations Unies. On se demande si nous sommes encore un pays ou si c'est un territoire administré par les Nations Unies. Nous ne sommes pas informés et on prend des décisions qui tendent à limiter les pouvoirs d'un chef d'État souverain, d'un gouvernement légitime, quoi qu'il en soit. Nous assumons nos responsabilités. Nous devons nettoyer notre territoire de cette chienlit avec ou sans les Nations Unies. Nous ne sommes pas un pays sous tutelle ou un pays colonisé.
Lambert Mende, ministre de l'Information de la RDC.
Un militant associatif détenu en secret depuis 3 semaines en République démocratique du Congo a été présenté au public, signale l'agence France-Presse. Le ministre congolais de l'Intérieur Évariste Boshab a déclaré mardi lors de la présentation de Christopher Ngoyi Mutamba que le leader du mouvement associatif sera jugé pour avoir tenté de renverser les institutions de la République.
Monsieur Ngoyi Mutamba avait été enlevé par des hommes en civil au moment des 3 journées de manifestations violentes contre la modification de la loi électorale. Ces manifestations ont fait 30 de morts à Kinshasa selon le gouvernement, 40 selon la Fédération internationale des droits de l'homme.
Reprise à Alger des pourparlers de paix dans la crise malienne. Bamako et les groupes rebelles discutent depuis des mois sans succès pour parvenir à un accord. Nicolas Pino.
Oui, c'est la 5e phase des négociations qui débutent dans la capitale algérienne. Arrivé sur place hier soir, le premier ministre malien Modibo Keïta a estimé que son pays n'avait pas d'autre choix que de s'inscrire dans une dynamique de paix. Cité par l'agence de presse algérienne APS, M. Keïta espère déboucher rapidement sur un accord. Mais sur le terrain, la situation se dégrade rapidement en raison d'un désaccord croissant entre les différents groupes rebelles sur la nécessité de signer un tel accord. Les armes se font entendre de Tabankor à Anéfis. Inquiet, le Conseil de sécurité de l'ONU a exhorté la semaine dernière Bamako et les groupes armés à faire avancer leurs négociations et menacer de sanctions, ce qui reprenne les hostilités.
Au Niger, l'état d'urgence est proclamé pour un délai de 15 jours dans la région de Diffa, dans le sud-est du pays. Les forces de sécurité pourront mener des perquisitions jour et nuit. Mamadou Karidjo, ministre de la Défense nigérien, a qualifié la situation à Diffa de grave.
Une bonne partie de la population a fui par crainte d'une nouvelle attaque de Boko Haram. Depuis vendredi, cette ville, située à quelques kilomètres de la frontière avec le Nigeria, a subi des attaques répétées des djihadistes. Pour un témoignage, Idriss Fall a joint Amadou Karimou, un habitant de Diffa.
Je vous confirme qu'en tout cas, 90% de la population ont fui la ville. Vous savez, c'est de nouvelles choses pour nous. Les gens n'ont pas l'habitude d'entendre des coups un peu partout, voir un peu le militaire en train de travailler. Du coup, les gens ont eu peur. Effectivement, il y avait eu des bombes qui ont été explosées, il y avait eu des prisons qui ont été attaquées. Mais les forces armées nigériennes ont maîtrisé les choses. Les militaires sont là partout, le calme est revenu, les gens sont en train de circuler comme d'habitude. Pour l'instant, la ville est normale. Les gens sont en train de féliciter les vaillantes forces de l'ordre. Actuellement, quand tu circules à Diffa, tu vas voir, les gens sont en train de prendre du thé, mais malheureusement, beaucoup ont eu peur, ils ont quitté la ville. Et comme c'est du nouveau, c'est du jamais vu, donc c'est normal. Ça fait 48 heures, le calme est là, et les gens sont en train de circuler massivement comme ils veulent.
Amadou Karimou, un habitant de Diffa, dans le sud-est du Niger.
Le président Barack Obama devrait annoncer aujourd'hui le retrait de la majorité des militaires américains déployés en Afrique de l'Ouest pour lutter contre l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola, au motif que leur mission a été couronnée de succès.
Selon l'agence France-Presse, l'Union européenne et ses principaux partenaires vont organiser le 3 mars à Bruxelles une conférence internationale. Elle permettra de faire le point sur la lutte contre le virus à Ebola et les mesures de reconstruction dans les pays touchés par l'épidémie. Lionel Gaïma.
Plus de 80 délégations africaines, européennes et agences internationales doivent participer à ce rendez-vous. Le FMI, qui a accordé la semaine dernière 100 millions de dollars d'allègement de dette aux trois pays africains frappés par Ebola, sera présent, tout comme la Banque mondiale. L'Union européenne, qui a mobilisé plus d'1 milliard de dollars, sera représentée par Federica Mogherini, chef de la diplomatie européenne. D'après Christos Tilianides, coordinateur européen de la lutte contre Ebola, l'enjeu à long terme est d'aider les pays touchés à prendre un nouveau départ. À court terme, les participants feront le point sur la lutte contre l'épidémie et les actions à mener pour son éradication. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone font face à d'énormes défis, notamment la reconstruction de leur système de santé, la réponse aux crises alimentaires, la reconstruction économique et la prise en charge des orphelins et des enfants qui ont quitté l'école à cause de l'épidémie. Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À la faveur de la visite au Caire du président Vladimir Poutine, la Russie et l'Égypte ont signé plusieurs accords de coopération hier, notamment un protocole d'entente pour la construction de la première centrale nucléaire égyptienne. Des détails avec Michel Joseph.
L'accord nucléaire qu'ils ont annoncé a surpris plusieurs observateurs, mais le président Sisi s'est voulu rassurant. Il s'agit, a-t-il dit, de profiter de la longue expérience russe pour lancer la production d'électricité à des fins pacifiques. L'Égypte avait arrêté son programme nucléaire dans les années 80 suite à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Les investissements russes, le tourisme et la lutte contre le terrorisme figurent parmi les autres domaines de coopération entre Moscou et le Caire, a indiqué le président Poutine, ajoutant que ses entretiens dans la capitale égyptienne ont aussi porté sur la situation régionale et internationale. Le dirigeant russe a souligné la nécessité de résoudre les conflits en Syrie et dans le reste du Moyen-Orient. 5 petites bombes ont explosé hier dans des commissariats de police d'Alexandrie, la deuxième ville égyptienne, faisant plusieurs blessés.
Le nombre de combattants étrangers se rendant en Syrie et en Irak pour rejoindre l'État islamique ou d'autres groupes extrémistes continue d'augmenter en dépit des bombardements menés par les États-Unis et leurs alliés. Au cours d'une audience mercredi devant une commission de la Chambre des représentants, des responsables du contre-terrorisme auraient l'intention de dire aux parlementaires que plus de 20 000 combattants étrangers originaires de plus de 90 pays se sont précipités dans la région, parmi eux plus de 150 citoyens américains ou résidents des États-Unis.
Et puis, la Maison-Blanche a annoncé mardi la création d'une nouvelle agence fédérale chargée de gérer les menaces à la cybersécurité et de coordonner la stratégie pour les combattre. Le nouveau centre intégré du renseignement sur les cybermenaces permettra de coordonner l'action de la police fédérale, du FBI, de la NSA, du département de la sécurité intérieure, Homeland Security et d'autres organismes fédéraux. La Maison-Blanche estime que le cyber-renseignement est plombé par l'absence de coordination entre les agences fédérales et puis les rivalités qui les opposent. L'espoir est que le nouveau centre leur permettra d'échanger rapidement leurs données et facilitera le travail des décideurs. On enchaîne avec la minute de l'économie en compagnie de Nathalie Barge. Alors Nathalie, il y a des travaux de voirie en pleine expansion en Afrique.
Louis Berger du groupe d'ingénierie BGH travaille actuellement sur le programme de maintenance du réseau routier gabonais, financé par l'Union européenne à hauteur de 2,36 millions d'euros. Le bureau d'études assistera une vingtaine d'entreprises gabonaises pour les doter des capacités nécessaires à la maintenance du réseau routier à long terme. La grève se poursuit au Gabon. Les syndicats du mouvement dynamique unitaire gabonais refusent de céder au gouvernement qui a remis la faute sur un logiciel inopérant pour justifier le défaut de paiement relatif à la grille des nouveaux salaires.
Lui-même, il est passé à la télévision le 31 décembre où il a dit que sans attendre les décisions du dialogue social, je demande au gouvernement de mettre en place le nouveau système de rémunération dès janvier 2015. Ça n'a pas été fait.
Aminata Njomba, présidente du syndicat des agents des organes de communication du service public. Le gouvernement égyptien exposera les détails de 12 projets pétroliers lors de la conférence pour le développement économique le mois prochain à Sharm el-Sheikh, indique l'agence de presse africaine. Les projets de raffinage nécessitent plus de 4 milliards de dollars d'investissement et ceux relatifs aux produits bruts environ 2 milliards de dollars. Il est notamment prévu d'effectuer la transformation du pétrole à Suez.
On enchaîne avec l'actualité sportive en compagnie de Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Camille.
Les Ivoiriens fraîchement vainqueurs de la CAN 2015 et chèrement récompensés.
Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a offert hier 2 milliards de francs CFA aux éléphants footballeurs et vainqueurs dimanche de la 30e Coupe d'Afrique des Nations. Chaque joueur a reçu une villa d'une valeur de 30 millions et 30 millions de francs CFA en espèces. Quant à l'entraîneur Hervé Renard, il a reçu 75 millions de francs CFA. Le staff technique et administratif reçoit quant à lui 300 millions de francs CFA. Ces dons ont été annoncés hier au cours d'une cérémonie de distinction où tous les éléphants étaient réunis au palais présidentiel.
Issa Hayatou, lui, pense déjà à 2016.
Président de la Confédération africaine de football depuis 1988, Issa Hayatou, 68 ans, jouerait volontiers les prolongations. Dans l'état actuel des statuts de l'instance continentale, les membres âgés de 70 ans doivent démissionner. Si les choses restaient en l'état, le dirigeant camerounais serait donc dans l'impossibilité de briguer un nouveau mandat de 4 ans en 2017. Aussi, une modification des textes est-elle à l'étude afin de lever cette limite d'âge. La FIFA ne prévoit pas de limite d'âge pour ses dirigeants. La CAF entend simplement se mettre en conformité avec cela, a plaidé Kwesi Nyantakyi, le président de la Fédération ghanéenne de football et membre du comité exécutif cité par Reuters.
Coupe du monde des moins de 20 ans en Nouvelle-Zélande.
Les Argentins, qui ont déjà remporté 6 fois le mondial des moins de 20 ans, affronteront dans le groupe B le Panama, l'Autriche et le futur 3e du championnat d'Afrique des moins de 20 ans disputé en mars. Autre favori, l'Allemagne est également dans une situation favorable dans le groupe F, où elle affrontera l'Ouzbékistan, le Honduras et les Fidji. Enfin, je vous laisse donner quelques résultats de la nuit en NBA, le championnat de basket nord-américain.
En NBA, eh bien, les San Antonio Spurs de Tony Parker avaient offert lundi soir à leur coach, Greg Popovich, la 1000e victoire de sa carrière. Mais voilà, leur bonheur n'a pas duré. Mardi soir, les Spurs se sont inclinés face aux Houston Rockets sur le score de 127-118. Et puis Detroit a écrasé Charlotte 106-78. Sacramento s'est incliné face à Chicago 86-104. Et Memphis a eu raison de Brooklyn 95-86.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Camille Grodigue avec vous pour Le Monde aujourd'hui. Nous enchaînons avec les dossiers du jour. Les nombreuses incursions du groupe islamiste nigérian Boko Haram au Cameroun affectent le transport et le commerce dans la région camerounaise de l'extrême nord. Les attaques contre les véhicules, souvent suivies de meurtres et enlèvements, découragent le mouvement des biens et des personnes dans la région. Timothée Donangmaï a recueilli le témoignage d'Abou Bakari Abdoulaye, délégué régional du commerce de l'extrême nord camerounais.
Oui, effectivement, il y a eu quelques attaques de Boko Haram qui ont eu pour effet de réduire la circulation, notamment des véhicules transportant des personnes, réduisant ainsi la mobilité des personnes vers le département de Gémissari. Néanmoins, en termes de biens, les véhicules, les camions continuent de circuler, souvent sous escorte, mais les mesures effectuées sont prises pour permettre la circulation des biens en direction de cette zone-là, au point que jusque-là, on ne déplore pas des problèmes d'approvisionnement de manière très accentuée au niveau du département de Gémissari. Mais il est vrai que les mesures effectuées sont prises et en donc pour essayer de réduire la situation des personnes et des biens. Mais le problème n'a pas impacté sur les approvisionnements de manière pratique dans les personnes et des biens.
Qu'en est-il du commerce avec le Nigeria qui était très intense avec l'extrême nord?
Oui, effectivement, vous savez que l'affect de Boko Haram a pour base l'état de Borno, qui est l'état frontalier de la région de l'extrême nord, avec lequel effectivement nous entretenons le temps intense soutenu de favoriser aussi bien la proximité géographique que les liens socio-culturels des populations. Avec donc l'inclusion de l'affect Boko Haram dans cette partie de l'État du Nigeria et plus tard des effets, des attaques, des incursions dans notre région, ces changements sont pratiquement à l'arrêt. Les populations ont pu se orienter plutôt vers d'autres sources d'approvisionnement, notamment de la partie de la région du Nord, dont la frontière avec l'État du Nigeria ne connaît pas réellement de problèmes. Si bien que la région du Nord ne connaît pas de problèmes d'approvisionnement par rapport aux produits qui viennent du Nigeria, mais les produits qui sortent de l'extrême nord via l'état de Borno ne sortent plus. Mais ce n'est pas une mauvaise situation pour la région de l'extrême nord parce que les produits qui sortaient, c'était surtout des produits ouvriers, ceux qui relevaient leur prix sur le marché avec les pénuries souvent. Le fait donc que ces produits ne sortent pas les rendent disponibles sur nos marchés avec des prix accessibles.
Monsieur Abou Bakari Abdoulaye, délégué régional du commerce de la région camerounaise de l'extrême nord, il était joint à Maroua.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham à Bafoussam.
Camille Grodidi avec vous. La Guinée équatoriale fait le ménage après la CAN 2015, expulsant des centaines d'immigrants économiques qui ont profité de la compétition pour entrer dans le pays. La nation a restreint l'immigration depuis qu'elle est devenue l'un des principaux pays producteurs de pétrole d'Afrique subsaharienne et en tant que telle, une destination privilégiée pour les Africains chômeurs et pauvres. Voici un reportage de Moki Edwin Kinzeka de la frontière du Cameroun avec la Guinée équatoriale, où certains des immigrants économiques sont bloqués. Présentation chez Rubin Dorsil.
Peter Fourchu, un jeune peintre de 23 ans, a appris à saluer les gens en espagnol, une des deux langues officielles de la Guinée équatoriale, quand il caressait l'idée de quitter son pays natal, le Cameroun, pour les pâturages plus verts. À trois reprises, la Guinée équatoriale lui a refusé un visa. Sa chance allait sourire avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Fourchu a pu convaincre les autorités consulaires qu'il était un fan de football, désireux d'aller assister au tournoi. Son compatriote Ebene Dieudonné, qui vient de la capitale du Cameroun, Yaoundé, en a fait de même. Mais sitôt la CAN terminée le dimanche 8 février, ils ont été arrêtés et expulsés, comme l'explique Dieudonné.
On était en train de vivre une fête africaine. Ce n'est pas normal qu'on demande aux Camerounais de rentrer parce que nous sommes tous des membres de la CEMAC. Donc s'ils estiment qu'ils peuvent partir du Cameroun pour aller chercher dans un autre pays CEMAC, c'est tout à fait normal.
Faisons un retour en arrière. Plus exactement, au milieu des années 1990, le boom pétrolier commence en Guinée équatoriale. Le pays ne tarde pas à devenir l'un des plus grands producteurs d'or noir de l'Afrique subsaharienne. En 2004, c'était l'une des économies les plus dynamiques du monde. Ainsi, la Guinée équatoriale a commencé à attirer de nombreux Africains démunis à la recherche d'une occasion d'améliorer leur vie. C'était le cas de cet homme de 45 ans, Deep Augustin, qui a de nouveau été expulsé et qui réside maintenant dans la ville frontalière de Kiossi, au Cameroun. Pendant que j'étais en Italie, dit-il, j'ai vu sur le net qu'il y avait beaucoup de pétrole ici et j'ai décidé de venir m'y établir. Je suis arrivé au mois d'août, j'ai été refoulé parce que je n'avais ni passeport ni visa. J'ai dit à ma sœur que je voulais revenir. Alors je suis entré, toujours sans aucun visa et sans passeport. Mendip Augustin dit avoir observé un grand écart entre l'idée de ce que la Guinée équatoriale peut offrir et le train de vie des équato-guinéens, dont la majorité vit encore dans une pauvreté abjecte. Il veut que les candidats à l'immigration dans ce pays sachent qu'une vie meilleure ne leur est point garantie. Je vais leur conseiller de rentrer chez eux plutôt que de se cacher. Ils ont construit les stades et c'est fini. Ils ont construit des routes et elles sont terminées. Idem pour les maisons. Ils ne devraient pas venir ici parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce pays. Certains des Camerounais expulsés sont en colère, disant que leurs diplomates ne font pas assez pour les aider. En réponse, l'ambassadeur du Cameroun à Malabo, Mpuel Mbala Lazar, rappelle que les protocoles internationaux d'immigration doivent être respectés. Il y en a de ces immigrants illégaux qui arrivent en bateau. De nombreux Camerounais croient qu'ils peuvent simplement traverser en Guinée équatoriale, acquérir des richesses et faire ce qu'ils en veulent. Mais il y a un minimum de principes à respecter. Oui, les lois internationales ont la préséance sur les lois nationales. Mais même pour la libre circulation des personnes, au minimum, il faut identifier qui entre dans le pays, a dit l'ambassadeur dans un entretien avec la Voix de l'Amérique. Des centaines de Camerounais ont été expulsés depuis la fin de la CAN, dimanche dernier.
Jacques Aristide, avec vous, ce jeudi dans Washington Forum, le report très critiqué des élections au Nigeria face au danger Boko Haram. Une crise électorale se profile-t-elle à l'horizon dans ce pays fragilisé ? Questions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui en compagnie de Camille Gros-Didier. Au Mali, la ville de Ségou vient d'abriter la 11e édition du festival sur le Niger. Après 10 ans d'existence, les organisateurs du festival voulaient faire des innovations, des changements profonds à plusieurs niveaux, signale notre correspondant Kassim Traoré. Mais voilà, ces changements auraient été problématiques au point de dépasser les compétences des organisateurs. D'autres précisions avec Kassim Traoré.
C'est par le colloque international que les activités de la 11e édition du Festival sur le Niger ont débuté à Ségou, deuxième ville du Mali. Acteurs culturels, chercheurs et universitaires se sont retrouvés autour du thème « Culture et emploi, quelle industrie culturelle pour l'Afrique ?» Mahmoud Dafé, directeur du Festival sur le Niger.
Nous avons voulu traiter ce thème parce qu'aujourd'hui, la question de fond dans notre pays, c'est la relance de l'économie nationale, mais surtout la reconstruction du tissu social. Créer une occasion pour un brassage des peuples du Mali, pour qu'on se retrouve autour de ce qui nous unit.
Ce colloque a permis à plusieurs personnalités du monde des arts et de la culture, mais aussi des universités, de faire des contributions.
Le Mali a une richesse dans la musique, il y a un foisonnement d'artistes musiciens, dans l'artisanat aussi. Donc je pense que le Mali gagnerait vraiment beaucoup à professionnaliser ce secteur, tant dans la formation, tant dans les moyens justement pour pouvoir faire décoller des petites entreprises dès le départ. Il faudrait que l'État s'y mette.
Nos pays sont en relation avec d'autres pays et il y a différents acteurs internationaux qui pèsent sur la vie économique et sociale dans nos différents États. Tout ce poids-là ne favorise pas toujours l'émergence d'une économie vraiment indépendante.
Après le colloque, la foire internationale de Ségou a ouvert ses portes, regroupant beaucoup d'artisans, d'artistes venus d'Afrique et du monde.
Quand je me suis arrêté au stand camerounais, il a fallu que la dame dise qu'elle est camerounaise pour que je fasse la différence avec les stands maliens. C'est la même chose avec les stands béninois. Je crois qu'au fond, l'Afrique est une.
Nous, on a un stand juste là-bas. On propose des produits énergétiques, c'est-à-dire des chauffoirs solaires, des foyers améliorés pour consommer beaucoup moins de bois. On supporte aussi des coopératives de femmes.
beurre de karité, des confitures, du miel et des produits agroalimentaires séchés.
Et l'impression première que j'ai eue, c'est que les artistes, les artisans font des efforts d'intégration africaine, d'unité africaine. Mais hélas, nous les politiques, nous ne suivons pas la marche de nos artistes et de nos artisans.
Les festivals sur le Niger donnent un élan à l'économie de la ville de Ségou. Cela s'explique par le fait que pendant les 3 jours, les gens se frottent bien les mains.
J'emploie 14 personnes pendant le festival. Hier soir, par exemple, on est resté jusqu'à 5 heures du matin pour vendre. On a beaucoup vendu. En termes de recettes, moi, je peux gagner 500 000 par jour.
Pendant les 3 jours de festivité du festival, nous gagnons plus que même des 3 mois.
Côté animation musicale, c'est la diva Oumou Sangaré qui était la tête d'affiche. Elle a remplacé Alpha Blondy qui ne voulait pas venir à cause de la situation sécuritaire au Mali. Bassekou Kouyaté et Sengoni étaient aussi de la fête. Le festival sur le plan musical cette année n'a pas comblé toutes les attentes.
Il y a eu des éditions meilleures, mais ça va. Hier soir, j'étais très déçue, mais je me rattrape ce soir. Kyrgyz géant. Extraordinaire.
La 11e édition du festival sur le Niger s'est achevée avec les remises de diplômes aux 3 quartiers les plus propres de Ségou. Il faut rappeler que la 11e édition, qui devrait être une édition de rénovation, a été très difficile pour les organisateurs sur le plan musical. La programmation des artistes a posé d'énormes difficultés. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Ici Washington, les experts en énergie affirment qu'il est urgent d'accélérer le rythme de l'investissement public et privé pour l'éclairage en Afrique. Selon eux, les gouvernements à eux seuls ne peuvent pas le faire. Ils doivent impliquer le secteur privé pour combler le manque d'électricité. On écoute le reportage de Mariama Diallo, repris ici par Jean-Roger Bion.
Selon les experts, l'Afrique subsaharienne a d'énormes ressources inexploitées de gaz, de pétrole, de charbon, d'énergie géothermique, solaire, hydraulique et éolienne. Pourtant, la Banque mondiale dit qu'un Africain sur 3 vit sans électricité. Stéphane Ndirou est le directeur de Geothermal Development Company du Kenya et conseiller en énergie du président de ce pays. Il dit que les gouvernements seuls ne peuvent changer cela.
Il y a eu des initiatives, des politiques, des lois. Il y a eu des mécanismes de régulation qui ont été mis en place. Mais il y a eu un énorme fossé et on a besoin de la participation du secteur privé pour renforcer les capacités.
Lors d'une récente rencontre à Washington sur l'électrification de l'Afrique, Ndirou a souligné qu'il était temps d'accélérer la participation du secteur privé.
Nous aimerions nous asseoir ensemble et voir si nous pouvons surmonter ce problème parce que nous croyons qu'il y a un énorme marché là-bas. Nous croyons qu'il y a beaucoup à faire par le secteur privé.
Le Kenya est l'un des 5 premiers pays à lancer le partenariat Power Africa du président Barack Obama pour augmenter la capacité d'alimentation et d'accès à l'électricité. L'accès à l'électricité est essentiel en cette ère, a souligné le chef de l'exécutif américain. Africa Power a mobilisé plus de 20 milliards de dollars du secteur privé pour les nouveaux projets d'électrification. Andrew Erkovitz est le coordinateur pour les initiatives d'électrification et de commerce en Afrique.
Solar Reserve, a US company based in Santa Monica, California.
Solar Reserve, une société américaine basée à Santa Monica, en Californie, vient de remporter un marché en Afrique du Sud pour construire un projet solaire de 100 MW concentré. Nous avons un autre grand projet avec Global Gigawatt, une société américaine qui va être mise en service la semaine prochaine au Rwanda aussi. C'est 8,5 MW qui vont fournir de l'énergie à des milliers de gens.
Mais tandis que les experts de l'industrie disent que le marché de l'énergie en Afrique est prêt pour la participation du privé, les investisseurs avertissent qu'ils se heurtent à des obstacles, y compris les coûts parfois élevés, des négociations souvent trop longues et des risques potentiellement élevés.
Salut les amis, Roger Montou, VOA Afrique. Notre sujet de la semaine, très important, ne ratez pas la question. Que doit-on retenir de cette CAN 2015 qui vient de s'achever? Quel est le bilan selon vous? citez quelques événements de la CAN qui vous ont marqué. Plusieurs polémiques ont éclaté durant le tournoi de la CAN 2015. Citez-en quelques-unes, les amis. Seulement ici, dans RM Show, ne ratez pas cette semaine. On va attaquer-moi. Appelez au 001-202-619-3140. Notre groupe Facebook, c'est Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Restez à l'écoute de cette émission sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'était au micro Camille Grosdidier. Une très bonne journée à l'écoute de la VOA. Soyez au cœur de l'info.